Donc vous savez que ça fait déjà pas mal de temps que je vous entretiens de la... Faut que je baisse mon truc ? De la première épître des épîtres aux Thessaloniciens. J'ai terminé la dernière fois le commentaire de la première épître et on va regarder la deuxième aujourd'hui. On va commencer cette deuxième épître. Et je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles dans 2 Thessaloniciens. On va lire le premier chapitre et un morceau du deuxième. Merci beaucoup. C'est celui-là, d'accord. Super. Un titre qui fait peur. Hein ? Mais bon, on va voir ce que la parole de Dieu en dit. Donc, deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée. Salut l'Église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne. À cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne de ceux qui lui appartiennent et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, et que par sa puissance il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous, et vous serez honoré en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez l'expression « notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ ». Je continue dans le chapitre 2. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais cela lorsque j'étais encore avec vous. Ne vous en souvenez-vous pas ? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Donc jusqu'ici, cette lecture de la parole de Dieu. Donc cette lettre est la deuxième qui nous soit parvenue de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Thessalonique, une église de Macédoine qu'il a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire, comme cela nous est raconté par Luc en acte 17. Au début de cette seconde lettre, vous l'avez vu, Paul exprime toute sa reconnaissance à Dieu pour la foi des chrétiens de Thessalonique, qui se manifeste par des œuvres qui glorifient le Seigneur, et aussi pour les progrès réjouissants de l'amour fraternel parmi eux. Ces progrès spirituels sont d'autant plus évidents qu'ils vivent une situation difficile, la persécution, tant des Juifs que des païens. Alors Paul les encourage en leur disant que Dieu est juste et que leurs persécuteurs seront immanquablement jugés et punis lors de la venue de Jésus-Christ pour prendre les siens avec lui. Ce châtiment, nous l'avons lu au verset 8, consiste dans une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. En contraste, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle seront honorés en même temps que Christ le sera lors de son retour. C'est pourquoi Paul et ses collaborateurs prient continuellement pour eux afin que leur comportement ne cesse de faire des progrès dans une manière sainte de vivre. C'est ainsi qu'à sa venue, le Seigneur les trouvera dignes de l'appel qu'il leur a adressé. Mais ensuite, Paul traite d'un problème qui dénote chez ces chers Thessaloniciens une erreur dans la compréhension des événements qui entourent la deuxième venue de Jésus-Christ. Il avait déjà traité, vous en souvenez, dans sa première lettre, écrite quelques mois plus tôt, d'une première erreur qui s'était glissée parmi certains d'entre eux. Cette erreur, on la trouve en 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Vous avez le texte là sous les yeux. Je vous le relis. Non, vous ne m'entendrez pas, j'y vais là-bas. Mais ça ne fait rien. Je vais le lire comme ça. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'ai déjà commenté ce texte. Les chrétiens de Thessalonique donc s'affligeaient de voir certains de leurs frères et sœurs mourir alors que le Seigneur n'était pas encore revenu. Ils pensaient de ce fait, ils n'auraient pas part à l'enlèvement des justes par le Seigneur. Alors Paul leur a rappelé l'enseignement qu'il leur avait donné de vive voix à ce sujet. Ceux d'entre eux qui sont décédés ressusciteront premièrement, et ceux qui sont en vie à ce moment-là seront transformés, c'est-à-dire recevront de nouveaux corps adaptés à la vie éternelle, de sorte que tous iront à la rencontre du Seigneur dans les airs et seront de ce fait pour toujours avec le Seigneur. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul aborde un autre sujet, toujours en rapport avec le retour du Seigneur, événement que la Bible appelle le jour du Seigneur. Ce terme, le jour du Seigneur, parle essentiellement de jugement. C'est l'autre volet du retour de Jésus-Christ. Il revient pour prendre les siens avec lui, certes, mais aussi et probablement simultanément pour juger les impies. Il semble que certaines informations erronées avaient troublé les Thessaloniciens à ce sujet. Soit des prophéties prononcées dans leur église, soit une lettre faussement attribuée à Paul et ses collaborateurs. On ne sait pas. Cette information, c'est que le jour du Seigneur serait déjà là. Les persécutions qu'ils enduraient pouvaient peut-être les amener à le croire. Ce type d'enseignement erroné n'était pas propre à la seule église de Thessalonique. On le trouve aussi très clairement à Éphèse, où Timothée est l'un des principaux responsables. En effet, on lit en 2 Timothée 2, 18, « Ils, les faux docteurs, se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. » Donc, vous voyez, à Thessalonique, il y avait aussi des gens qui prétendaient ça. Ainsi, à Éphèse. « Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. » Voilà ce que Paul écrit à son collaborateur Timothée à ce moment-là. Et puis également aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 4, verset 8, il écrit aux Corinthiens, « Dès à présent, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. » Là, il y a une pointe d'humour de la part de Paul envers les chrétiens de Corinthe. Alors, Paul affirme que contrairement à ce que prétendent ces faux enseignants, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Et il en donne la preuve principale. On a dans cette diapo. Voilà. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une révélation religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas ? Dit Paul. Il y a donc un événement qui doit précéder le jour du Seigneur, qui, je le rappelle, est aussi celui de l'enlèvement des croyants auprès de lui, mais également donc le jour du jugement des impies. Cet événement, c'est la révélation de l'homme de la révolte destiné à la perdition. C'est comme ça que Paul le qualifie. On pense tout de suite à celui que l'apôtre Jean appelle l'Antichrist, ou plutôt son système. Alors ce terme d'Antichrist n'apparaît que dans les épîtres de Jean. On le trouve dans la première et la deuxième épître de Jean. Alors voilà ce que Jean a écrit dans sa première épître, au chapitre 4. Je vous lis les versets 1 à 3. « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain, que Jésus est venu, vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. » C'est là un des rares passages de la Bible où ce terme est utilisé. « Dont vous avez entendu annoncer la venue. » Eh bien, dit Jean, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous voyez qu'il dit la même chose que Paul. Que dès à présent, il est dans le monde. Dans la deuxième épître de Jean, au verset 7, « Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu. Qui fait partie de ces gens-là est trompeur. C'est l'Antichrist. » Donc vous voyez que dans ces deux lettres de Jean, parle de l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Et il dit que bien des prophètes de mensonges, donc des antichrists, se sont répandus dans le monde déjà à son époque. Il y aurait donc plusieurs prophètes de mensonges, de ce personnage mystérieux ou de son système. Et les chrétiens auxquels Jean écrit en ont déjà entendu parler. Il fait probablement allusion au grand discours, dit eschatologique, c'est-à-dire des choses dernières, que Jésus... de Jésus rapporté en Matthieu 24, par exemple, ou en Marc 13. Discours que Jean, disciple de Jésus, avait entendu de ses propres oreilles. On peut lire, par exemple, en Matthieu 24, « De faux messies surgiront, » c'est Jésus qui dit ça à ses disciples, hein, « de faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, même si c'était possible, ce que Dieu a choisi. » C'est-à-dire les élus de Dieu. Un peu plus loin, c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Vous voyez que tous ces écrits parlent de la même chose, en fait, hein, que ce soit ceux de Jean ou ceux de Paul. Alors nous avons lu que Jean donne un critère pour démasquer certains mensonges de l'Antichrist, il y en a bien d'autres. Hein. Par exemple, ceux qui nient la pleine humanité de Jésus de Nazareth. Et de ce fait, dès l'époque de Jean, de faux prophètes prétendaient que le corps physique de Jésus n'était qu'une illusion, qu'il n'avait jamais été pleinement homme. Cette hérésie porte le nom de docétisme, hein, un terme qui vient du grec dokeo, qui veut dire paraître. Il paraissait seulement être un homme. Ceci était l'un des mensonges de l'Antichrist, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, revenons à l'enseignement de Paul aux Thessaloniciens. Cet adversaire, cet Antichrist, pouvons-nous dire, je crois à juste titre, est caractérisé par la révolte contre Dieu, l'auto-élévation au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu, avec comme résultat sa perdition et celle de ceux qu'il aura réussi à tromper. Ces trois caractères sont ceux de Satan, l'adversaire de Christ. Satan est un ange, comme vous le savez, qui s'est révolté contre Dieu et a entraîné d'autres anges avec lui dans sa révolte, les démons. Il a réussi à entraîner nos premiers parents dans la mise en doute de la parole de Dieu et finalement dans la transgression de ses ordres. L'auto-élévation faisait aussi partie de ses suggestions mensongères. « Vous serez comme Dieu », a-t-il suggéré à Ève. La perdition, eh bien, Adam et Ève, suite à leur péché, ont été chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu a pourvu de toute éternité à un moyen de rédemption de la race humaine, du fait de sa grâce. Tout comme Jean, Paul dit que la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, on a lu au verset 7. Cette révolte s'est concrétisée au fil de l'histoire par de nombreux mensonges, parmi lesquels la négation de la pleine humanité de Christ, on en a parlé, hein, c'était l'hérésie qu'on a appelée les docètes, le docétisme. Mais il y a également son pendant, inverse, la négation de sa pleine divinité. Alors là, ils sont nombreux. Les hérétiques sont nombreux. Dès les premiers temps de l'Église, il y a eu un évêque qui s'appelait Arius, qui a prétendu que Jésus-Christ n'était pas pleinement Dieu. Et il a entraîné avec lui, mais on peut dire presque les trois quarts de la chrétienté. Ça a été une hérésie terrible, qui a poussé les pères de l'Église à reformuler de façon bien plus précise, l'essentiel des vérités bibliques concernant la pleine divinité de Christ. Et donc, à élaborer des credos, hein, qu'on trouve encore de nos jours. Il y a eu également la contestation, alors parmi ces hérétiques-là, hein, vous avez les témoins de Jéhovah de nos jours, hein, qui nient que Jésus-Christ soit fils de Dieu. Et puis également l'islam. L'islam, pour l'islam, Christ n'est pas du tout le fils de Dieu. D'ailleurs, pour un musulman, il est impensable que Dieu ait un fils. Dans ces mensonges, la contestation de l'origine créationnelle de l'univers et donc de l'existence d'un créateur. Ce n'est que récemment que les scientifiques sérieux ont admis que l'univers a eu un début et qu'il aura inexorablement de ce fait une fin. Jusque-là, beaucoup croyaient à un univers immuable, éternel, fixe. C'était la doctrine de la plupart des scientifiques jusqu'au début du XXe siècle. Autre domaine, beaucoup de scientifiques, encore qu'ils soient de moins en moins nombreux, croient encore à la fable de l'évolution des espèces vivantes, imaginée par Darwin, et qu'à l'avantage d'expulser la notion d'un Dieu infiniment sage et puissant à l'origine de la création des êtres vivants. De nos jours, les biologistes sérieux doivent reconnaître qu'il y a un tel saut entre la matière inanimée et la matière vivante que c'est tout bonnement impensable. Il faut avoir une imagination plus que furieuse pour imaginer que de la matière inanimée, on puisse faire des êtres vivants. C'est bien démontré de nos jours. Jusqu'au XVIIIe siècle, personne, en tout cas en Occident, ne contestait que Dieu était à l'origine de la création du monde dans lequel nous vivons. Parmi les mensonges de l'Antichrist, il y a aussi les religions concurrentes du christianisme. L'islam, au premier chef, qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu, et toutes les religions païennes, comme l'hindouisme, le bouddhisme, les religions animistes, qui divinisent la nature. C'est un autre biais, un autre mensonge de Satan. Eh bien, on va diviniser la nature. C'est la nature qui est Dieu. Ce qu'on appelle le panthéisme. Certains écologistes n'en sont pas loin. La négation de la sexualité humaine comme un don de Dieu strictement défini, comme la relation d'un homme et d'une femme au sein d'un couple fidèle et rien d'autre. C'est aussi un des mensonges de Satan. Et Dieu sait si on le vit actuellement. Hein. Tout cela, c'est l'esprit de l'Antichrist, dont les manifestations iront croissant jusqu'à ce que Christ lui-même y mette un terme. Mais Paul affirme que cette puissance mystérieuse qui est déjà à l'œuvre dans le monde est actuellement retenue. Hein, on l'a lu au verset 6. Quelque chose qui retient, ou quelqu'un qui retient. Ces versets ont suscité beaucoup d'hypothèses de la part des théologiens. Qu'est-ce qui ou qui retient l'Antichrist de manifester pleinement son pouvoir? Après examen de toutes les hypothèses avancées par les théologiens, la plus pertinente me paraît être celle que c'est Dieu lui-même qui retient l'Antichrist, pendant un temps décidé par lui seul et dans un but précis. Considérons quelques versets de l'Écriture à ce sujet. En Matthieu 24, verset 14, dans le grand discours eschatologique de Jésus, on a ce verset 14 où Jésus parle de la fin des temps. « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Vous voyez, donc il y a un préalable incontournable avant la fin. Ce préalable, c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit proclamée au monde entier et que tous les peuples en entendent le témoignage. Un autre passage dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis, c'est Jean qui a une vision, hein, qui raconte cette vision, « Je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. » Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant les scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Alors nous lisons, sous la plume de Paul, que lorsque ce qui le retient sera écarté, je pense qu'il s'agit de la chaîne dont Satan est lié, il y aura probablement un déferlement inouï de la puissance d'égarement de Satan, au moyen, nous dit Paul, d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Mais il ne pourra tromper que ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi, dit Paul, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça nous rappelle un peu l'endurcissement du Pharaon. Hein, où Dieu a endurci aussi le cœur du Pharaon. Et Paul conclut au verset 12, il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Il faut reconnaître que ce texte de Paul contient bien des éléments encore mystérieux, notamment le fait que l'homme de péché, l'Antichrist, dirait Jean, dans son orgueil insensé, aille jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. On voit donc que cet Antichrist sera un système, sinon même un personnage, suscité par Satan, mais décrit ici comme agissant dans la sphère religieuse. puisqu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alors, Paul parle-t-il du temple physique de Jérusalem, qui n'avait pas encore été détruit à son époque, et qui devrait donc nécessairement être reconstruit s'il s'agit bien d'un temple physique? Certains le pensent. Ou Paul parle-t-il du temple spirituel constitué de pierres vivantes, comme le décrit Pierre dans sa première épître, l'ensemble des croyants, l'Église? Si le temple de la Nouvelle Alliance est bien ce temple spirituel fait de croyants, c'est-à-dire l'Église, faut-il alors en déduire que c'est dans ce temple-là que l'Antichrist cherchera à se faire adorer comme Dieu? Est-ce une contrefaçon diabolique de l'Église dont Jean nous parle dans son Apocalypse, sous les traits de la grande prostituée? Nous devons bien reconnaître que certaines influences de l'Antichrist ont déjà contaminé l'Église par le passé, et que cela ne fait qu'empirer actuellement dans bien des domaines. Hérésies diverses, égarements moraux, etc. Nous avons lu au verset 11 que Dieu envoie une puissance d'égarement pour que croient au mensonge ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Alors que conclure de cet enseignement de Paul aux chrétiens de Thessalonique et à travers eux à tous les chrétiens du monde et de tous les temps? Eh bien, ceux de nos frères et sœurs qui sont décédés auront part à la résurrection de leur corps et seront enlevés à la rencontre du Seigneur avec tous ceux qui seront encore vivants lors de cet événement. Ça, c'est très clair, très précis. Deuxième point, le jour du Seigneur est un jour magnifique pour tous ses élus, puisqu'il est celui de leur rassemblement auprès de lui, pour l'éternité, mais il est aussi le jour de la condamnation de tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Ce jour sera présenté malheureusement déjà de nombreuses manifestations de l'activité de celui qui est menteur dès le commencement, nous l'avons vu. Mais, et ça c'est la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. C'est ce qu'on a lu au verset 8 du deuxième chapitre. Et bien que ces révélations que Paul nous donne nous encouragent à tenir ferme dans notre foi et notre espérance et à résister surtout aux influences mensongères de l'ennemi.